Dans l'exercice de la méditation, nous apprenons à nous lier à deux choses. C'est d'une part le réel de ce que le corps et l'esprit expérimentent instant après instant. Et d'autre part, la vérité de comment je peux vivre en paix avec ce corps et cet esprit. Et nous donnons beaucoup d'importance aux expériences, beaucoup d'importance à ce que moi vis. Et avec la méditation, peu à peu, cette importance diminue. Il y a une disponibilité intérieure qui se crée et une qualité de générosité, de service. L'autre devient essentiel. Pour que cette forme de transformation d'une attitude pleine d'anxiété, de mise à distance, alors on connaît le moi quand il est dans ses retranchements, puisse se transformer en une ouverture altruiste, il est important de commencer par mettre le moi au centre. Et c'est important de donner beaucoup de soin à moi, parce que c'est par la connaissance de moi que nous allons pouvoir nous ouvrir à l'autre. Cette exploration de la connaissance de qui suis-je, c'est tout à fait autre chose que l'exploration de qui je pense être. Qui je pense être, ça pour l'attention, pour l'attention pure, ce que je pense être, c'est seulement une pensée. C'est une pensée. Ce que je suis, c'est quelque chose qui est lié à l'expérience corporelle, à l'expérience auditive, à l'expérience visuelle, qu'on appelle olfactive, gustative, et à l'expérience conceptuelle. Et quand je dis expérience conceptuelle, c'est ce qu'on appelle citta en pali, c'est en même temps le ressenti et la pensée. C'est toute cette complexité qui fait qu'un contact crée un ressenti et la conséquence c'est des formations mentales, des pensées. Ça c'est ce qu'on appelle la contemplation. Et c'est très difficile de s'approcher de cette nouvelle manière de voir parce que on nous apprend à tout considérer sous le regard de la pensée. Je ne suis rien d'autre que ce que je pense être. Jamais on n'a appris à sentir vraiment qui je suis quand je respire. Qui je suis quand je sens. Qui je suis quand je vois des formes, des couleurs. Quand je vois, immédiatement, je suis non pas la vue, mais je suis ce que je vois, avec les projections qui s'y rapportent. Et je crois que c'est vrai, je crois que c'est le mieux. Donc, le soin que nous mettons à moi est indispensable si nous voulons pouvoir employer ce moi de manière belle et ouverte et fraternelle. Et non pas être coincé dans nos névroses et nos égoïsmes, et nos peurs et nos anxiétés. Et le soin doit être donné au corps en priorité, premier fondement, au cœur, c'est-à-dire est-ce que je trouve que les choses sont agréables, désagréables ou neutres, à la pensée, c'est-à-dire est-ce que la pensée est claire, relativement libre, ou est-ce qu'elle est opaque, ensommeillée, ou est-ce qu'elle est identifiée, et à la conscience, est-ce que je suis là. Et peu à peu, il y a comme un shift, un mouvement qui fait que l'expérience perd de son jus, de son intérêt obsessif ou obsessionnel, et la pleine conscience ou l'attention devient prioritaire. C'est ça qui est important. Est-ce que je suis ouverte à l'autre et à moi-même? Et de faire ce travail, c'est simple, mais ça n'est pas facile, parce que tout nous a préparés à filtrer et à commenter ce que nous vivons. Alors, quand nous méditons, quand nous commençons à méditer, eh bien, nous commençons à voir cette nature humaine à l'œuvre, à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce que nous voyons, d'abord, c'est l'impact de ce j'aime, je n'aime pas. Et nous voyons combien ça change. J'avais des bonnes intentions de venir méditer, je m'assieds. C'est l'horreur. Je n'aime pas. Mais c'est extraordinaire de pouvoir conscientiser l'expérience dans le réel de ce qu'elle est. Et non pas, dans le monde ordinaire, nous ne faisons pas ça. Nous n'avons pas le temps. Ça va tellement vite que ce que je n'aime pas, immédiatement je construis quelque chose, soit pour fuir, soit pour mettre autre chose à la place, soit pour rejeter, soit pour réagir. Et ce soir, j'aimerais vous parler des obstacles, parce que c'est la première chose qui vient dans le travail de l'assise, ce qu'on appelle les obstacles. Les obstacles, ils sont au nombre de 5. Il y a le désir et l'aversion, l'agitation et la somnolence ou la torpeur physique ou mentale, et le doute. Et ce sont des énergies que vous allez rencontrer. Pas de problème et pas de doute que vous les rencontriez. Ces énergies ont une immense sagesse à l'intérieur d'elles-mêmes. Seulement le problème, c'est que quand elles apparaissent dans le champ de conscience, d'abord, elle donne le sentiment que je fais faux, que je ne suis pas dans la cible, que je devrais faire quelque chose pour que ce soit autrement. Ensuite, ce sont les énergies désagréables parce que je ne suis pas unifiée. Quand je désire quelque chose et que je ne peux pas satisfaire mon désir, il y a une frustration, donc une séparation entre mon corps qui est là et ce que je voudrais qu'il soit. Quand je suis dans l'aversion, c'est pareil. Je suis là avec quelque chose que je n'aime pas et j'aimerais être ailleurs. L'agitation est désagréable parce que nous sommes ici pour trouver une clarté mentale et une paix du cœur. Et c'est le contraire qui nous arrive. Et de toute manière, l'agitation est désagréable en elle-même, parce que elle empêche la présence de se manifester. Quelque chose fait que je reste en surface, dans cette volubilité mentale, ou quelquefois énergétique. La torpeur ou la somnolence ne sont pas trop désagréables. Ça va, quand je dors, ça passe vite. Mais je ne suis pas là, donc je ne manque, je manque l'instant. C'est comme si j'étais morte, au fond, pendant un petit moment. Et puis le doute, c'est ce qui vient quand c'est tellement désagréable. Que je suis complètement prise mentalement par la recherche d'une solution finale et définitive à mes souffrances. Et ça n'existe pas. Ces obstacles, ce sont comme des gardiens du seuil. Avidja, l'ignorance, a une profondeur à la hauteur de l'éveil. Ce sont des gardiens du seuil dans le sens où, tant que nous leur donnons du pouvoir, ils ont l'air effrayants. Vous savez, chez les Tibétains, on dessine ces gardiens du seuil comme des déités terribles. Mais quand nous les prenons pour ce qu'ils sont, nous leur enlevons leur pouvoir et la présence devient prioritaire. La présence se fortifie. C'est-à-dire la paix intérieure. En général, quand un obstacle apparaît dans le champ de conscience, il y a une contraction du corps. Si c'est de l'agitation, comme je ne l'aime pas, le corps ne va pas être tout ouvert à l'agitation. Il y a une contraction que je peux sentir. Il y a un mal-être que je peux sentir et nommer. Et je peux sentir et nommer l'énergie dans l'instant. Tiens, ça c'est l'agitation. Ou ça c'est l'aversion. Et le faire dans l'assise vous permettra à terme de le faire dans vos vies et d'éviter de répondre par la réactivité et de créer des fois des situations terribles, juste parce que j'ai pas réussi à voir et à retenir et à attendre. Les obstacles portent quelque chose de très positif, c'est que quand j'ai appris à ne plus me contracter quand une de ces énergies arrive, j'ai fait un immense pas au niveau de ma sagesse intérieure. Parce que j'ai compris que je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas changer ce qui vient dans l'instant, mais je peux changer ma manière de le saisir, ma manière de me lier à lui. Il y avait un très beau film, des frères Tagliani qui s'appelait « Chaos ». Je ne sais pas si vous l'avez vu il y a longtemps. Et puis, il y avait une vieille femme qui disait à son petit-fils, on peut vouloir comme ça, ou on peut vouloir comme ça. Et avec les obstacles, on apprend vraiment à ouvrir l'énergie à ce qui est. Et quand il y a le désir, au lieu de focaliser la pensée sur l'objet du désir, et dans l'assise, ça peut être le désir de bouger une jambe qui a mal. Au lieu de devenir obsessionnel avec cette jambe qui a mal. Ok ? Il y a une sensation que je n'ai même pas besoin de nommer douleur. Si je le nomme douleur, il y a déjà quelque chose qui oriente un peu trop. Ce sont des sensations. Des sensations désagréables. On est d'accord. Il y a des sensations désagréables qui créent peut-être un désir de bouger. Et d'amener ça en conscience, l'attention pure à l'énergie du désir. Et de sentir combien je suis là quand cette énergie est là. Je suis là bien plus précisément qu'au moment où je bouge. Donc ces obstacles, on peut vraiment les employer pour grandir la conscience. Et quand j'ai mal, ça peut être l'aversion qui monte. Je déteste cette douleur, c'est insupportable.
ouvrir l'énergie.
Et on peut ouvrir l'énergie d'autant mieux qu'on se souvient que c'est une aide à la présence. Quelquefois, ce qui se construit peut être hallucinant. Je ne vais plus jamais pouvoir marcher. Peut-être pas dans 2 heures de méditation le soir, mais dans une retraite. Nous sommes très critiques par rapport à nous-mêmes. Nous sommes dans une grande complexité intérieure, toujours plein de la peur de faire faux, du besoin de faire juste, de ce sens du bien et du mal que nous pouvons vraiment conscientiser dans l'assise. C'est pas seulement qu'il y a l'agitation, il y a encore cette espèce de machin derrière où je fais pas juste. Et alors ce qui vient, c'est ben je suis nulle, quoi. J'arrive pas, j'arriverai jamais. Ou l'autre est nul. Bon, enfin, il est nul. Et ça, c'est le doute. Et si vous pouvez conscientiser le doute, quand je commence à émettre des jugements qui ne peuvent pas supporter le gris. Ça doit être comme ça. Si c'est pas comme ça, c'est faux. Si lui a raison, moi j'ai tort. C'est pas possible que lui ait une opinion et que moi j'ai une opinion. Lui a raison, moi j'ai tort. Cette façon de faire est juste, celle-là est fausse. Et alors, ça nous met dans le doute. Le doute, c'est un oubli de la première vérité qui dit que la vie est insatisfaisante. Dans le doute, nous avons besoin de trouver dans l'expérience, dans quelque chose ou quelqu'un, le juste. Donc il y a trop de pouvoir dans les conditions. Le doute implique un grand besoin de contrôle derrière, une grande peur de perdre la face, de perdre le sens que j'apprends, que j'ai donné à ma vie, mes opinions. Et c'est excellent d'avoir cette énergie du doute qui vient et de le reconnaître. Et je vous en parle parce que on commence par savoir les choses là, et puis après, quand ça va pas, ben on peut commencer à questionner. Okay. Est-ce qu'il y aurait un de ces obstacles ? Celui-ci, celui-là, 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 celui-là. Peut-être pas. Mais s'il y en a un, votre sagesse intérieure va vous parler. Vous allez savoir. Et avec la méditation, au début, il y a beaucoup, beaucoup de moments de flottement, où c'est pas très clair, où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais peu à peu, les choses se clarifient et l'ignorance, si je peux dire comme ça, ce qui en nous est ignorant et ce qui en nous sait et qui est déjà total, complet, commence à s'articuler. Et dans l'assise, nous commençons à savoir ce qu'il faut faire, à mieux comprendre où aller. Je vous lis une petite parole d'un Ajahn birman. L'esprit en balade n'est pas le problème. Ton attitude qui croit qu'il ne devrait pas se balader est le problème. L'objet de conscience n'est pas si important. C'est comment tu considères la chose qui est important. L'esprit en balade est une activité mentale naturelle. Si nous passons notre temps à la repousser, nous n'acceptons pas ce qui est naturel. Une fois que nous avons l'attitude juste, il est plus facile de rester présent avec l'esprit en balade. Au début, tu te perds souvent dans tes pensées, mais c'est ok. Avec le temps et la pratique, tu considéreras l'esprit en balade comme juste des pensées, et tu t'y perdras de moins en moins souvent. Ne résiste pas, n'attends rien, accepte les choses telles qu'elles sont. L'ignorance, ce qu'on appelle l'ignorance, avidya, la non-connaissance, c'est ce qui vient à l'intérieur du corps et de l'esprit et qui dit « il faut changer quelque chose ». Parce qu'au moment où je veux changer quelque chose, poc, il y a séparation. Alors, ça n'est pas que nous ne cherchons pas à changer quelque chose. Nous cherchons à transformer ce qui est égoïste et fermé sur moi en quelque chose de plus ouvert. Mais le seul moyen de pouvoir changer cette compréhension erronée, c'est de vivre l'instant tel qu'il est. De nommer et de reconnaître les choses telles qu'elles sont. Je me souviens, dans une retraite, j'avais la peur qui venait. Non, c'est pas comme, c'est comme ça. C'est une enseignante qui disait... Oui, mais il vous faut aller à la rencontre de votre peur. Alors je m'étais dit, ah bon, ben, je vais aller à la rencontre de ma peur. Et puis j'étais sortie le soir, c'était un endroit où il y avait une forêt tout près du centre où on méditait. Et puis moi j'ai peur, l'ombre la nuit, j'avais peur, comme cette forêt toute noire. Puis je me suis enfilée dans cette forêt pour sentir comme j'avais peur. Vraiment sentir ma peur. J'avais bien compris qu'il fallait voir les choses. Et puis, j'ai fait ça un soir, et puis le soir d'après, j'ai refait ça, puis le troisième soir, je suis retournée. Puis je sentais à chaque fois que j'étais pas vraiment tranquille. Et puis voilà que le quatrième soir, j'y retourne, et puis j'étais au milieu de cette forêt, et puis tout d'un coup, j'entends vraiment des bruits. Je pouvais pas prétendre, il y avait vraiment... J'ai senti mes cheveux qui faisaient... On dit les cheveux qui se dressent sur la tête, hein? Les cheveux, les poils. Et en fait, vraiment, j'étais dans un état de panique pendant un moment. Et en fait, c'était des soldats qui étaient venus faire des exercices de nuit.
Ça va bien ensemble.
Et c'est vrai que c'est des moments précieux quand on peut sentir vraiment ce lien entre le physique, le psychique, le monde extérieur. C'est toujours un contact qui crée un ressenti, qui crée une sensation physique. Et puis après, alors dans ma tête, tout ce qui allait, quand j'entendais ces bruits, je ne dis pas. Les constructions. Mais on fait ça sans cesse. On fait ça sans cesse avec tout ce qui nous arrive. Donc les obstacles, ils ont à être reconnus et il faut accepter que dans un chemin de méditation, avant de pouvoir être en contact avec cette sagesse intérieure qui est simple et ouverte et belle, le qui suis-je, il a pas mal de nuages. Et il faut les prendre avec tendresse. Plutôt que de dire « Ah, voilà de nouveau l'agitation. Ma petite agitation. » Je vous lis une parole de Mère Teresa. J'ai lu un bouquin d'elle l'autre jour. Si tu veux changer la manière dont les autres te traitent, tu dois d'abord changer la manière dont tu te traites. Tant que tu n'apprends pas à t'aimer pleinement et sincèrement, tu ne pourras jamais être aimé. Quand tu arriveras à ce stade, Sois pourtant reconnaissant de chaque épine que les autres pourront jeter sur toi. C'est un signe que bientôt tu recevras une pluie de roses. Il ne faut pas oublier que lorsque nous faisons ce travail d'ouverture aux énergies douloureuses que sont les obstacles, c'est une préparation à l'acceptation des émotions perturbatrices. C'est un antidote puissant à l'anxiété et à l'aversion. Donc c'est une forme d'amour pour soi-même. Nous commençons à apprendre comment aimer les énergies négatives à l'intérieur de nous-mêmes. Alors faites ce travail. Quand nous allons méditer tout à l'heure, essayez de vraiment vous ancrer dans le corps, sur la respiration. Et quand une de ces énergies vient, nommez-la, reconnaissez-la et explorez comment vous pouvez être avec elle en pleine tendresse.